c'est parti. Tirage.
A, T, C, G.
Ben voilà, des chiffres et des lettres aujourd'hui à la une de la science, puisqu'on vient d'entendre les lettres des quatre bases de l'ADN, et aujourd'hui Axel à la une. On en ajoute quatre nouvelles, un pas vient d'être franchi en génétique, et il s'agit d'une étude à la fois intrigante et excitante.
Et oui Mathieu, depuis 4 milliards d'années, depuis que la vie est apparue, elle prospère et évolue grâce à une seule molécule, l'ADN, que Watson, Crick et Franklin ont découvert en 1953 et qui sert de notice de fonctionnement codée à toutes les formes de vie connues. Et aujourd'hui, une équipe de chercheurs dirigée par Steven Berner à Chicago est parvenue à créer une toute nouvelle molécule d'ADN fonctionnelle avec deux fois plus de lettres pour écrire le code génétique qui passe donc de 4 à 8 bases. Et pour comprendre et l'ampleur de cette découverte, nous recevons Philippe Marlière. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes généticien et coordinateur de l'équipe génome de synthèse au Génopôle d'Evry. Alors ce travail là publié par Steven Berner, c'est son travail de toute une vie. En quoi est-ce que l'ajout de 4 lettres dans une molécule d'ADN change tout en génétique ?
Ça change tout en génétique parce que ça ouvre une immensité de possibles. On se dit qu'avec 4 bases, on a fait aussi bien des bactéries que des girafes. Donc on se demande ce qui va se passer quand on aura 8 bases. Alors, et bien sûr, il y a un argument un peu plus mathématique, si vous voulez, c'est que la densité de l'information qu'on est susceptible d'incorporer dans... C'est une sorte de plastique, en fait, l'ADN. C'est un plastique informationnel, on dit. Mais la densité vient d'augmenter de manière radicale.
Alors, si on reste un peu sur la métaphore de l'alphabet, ajouter une lettre, ça a l'air assez simple. On dessine une forme, on invente des mots et des significations, mais en génétique, c'est plus compliqué ?
Ben, c'est surtout en chimie. Oui. Parce que je vais vous donner le nom de... comme vous m'avez... m'y avait invité. Une des bases, c'est une des nouvelles paires, c'est SB. B, c'est en l'honneur de Berner.
Oui.
C'est 6 amino, 9 déoxyribofuranosyl, 4 hydroxy, 5 hydroxyméthyl, oxolanyl.
Ça, c'est une
purinone. Oui, c'est une des bases. Donc, ça donne une idée de l'intrication chimique et, bien entendu, il faut arriver à la préparer.
Mais alors, les quatre lettres dans l'ADN, c'est quoi déjà la base, Philippe Marlière ?
Purine, pyrimidine, donc ça a aussi des noms un peu accouchés dehors
comme ça.
Mais
ça sert à quoi ?
Pardon ?
Qu'est-ce que ça représente exactement ? Qu'est-ce que c'est ?
Ce que ça représente matériellement ou symboliquement ?
Ben, matériellement, dans l'ADN.
Ben, en fait, ce sont les petits drapeaux qui sont de 4 couleurs différentes, qui sont portés par, on dit, par une charpente qui est toujours la même. Donc on a toujours la même charpente, mais on a une succession de drapeaux qui est différente. Un peu comme dans la signalétique, si vous voulez. Et donc, on est très, très proche avec un système comme ça, des 0 et 1 de l'informatique. C'est pour ça, d'ailleurs, que la grande révolution de Watson et Crick, en 53, dont Axel parlait tout à l'heure, c'est justement d'avoir compris qu'il y avait un langage qui exprimait des caractères héréditaires sous forme de 0 et 1, exactement comme en informatique et au moment où l'informatique se déployait.
Et ce qui est intéressant, c'est que on dit l'ADN est fonctionnel, c'est-à-dire qu'on en tire des molécules.
C'est une incarnation, c'est le verbe incarné. Exactement.
Voilà, c'est ça. Quand l'équipe dit que le nouvel ADN créé est fonctionnel avec 8 bases, qu'est-ce que ça veut dire alors ?
Bah en fait, ce qu'ils ont fait là, aujourd'hui, ils ont fabriqué une double hélice d'ADN à la Watson-Crick. Ils ont avec 8 différentes sortes de bases à parier, etc. Et ils ont montré que ça avait exactement la même forme que de l'ADN normal, premièrement. Et deuxièmement, ils ont montré que ils arrivaient à le terme technique, c'est transcrire, c'est-à-dire en faire de l'ARN aussi avec des nouvelles bases. Et donc, il est fonctionnel dans le sens qu'il est une matrice, c'est-à-dire qu'il peut propager, il peut transférer de l'information héréditaire. Donc, on n'en est pas encore à avoir ces nouveaux drapeaux, ces nouveaux signaux chimiques dans in vivo, d'accord ?
Donc, il n'y a pas d'être vivant
pas
actuellement
encore,
avec cet ADN.
C'est inévitable. C'est la prochaine fois, ça
c'est
va être
but.
Ça.
C'est le but de cette recherche, c'est un jour d'incorporer cet ADN dans du vivant.
Ça a déjà été fait avec une paire de bases, je dirais, de qualité plus rustique, par Floyd Rommersberg. Mais là, ce sont des vrais. En fait, c'était vraiment un ersatz. Tandis que là, ce sont des bases qui ressemblent vraiment aux bases habituelles de l'ADN.
Alors, si on dit que le but à terme, c'est d'incorporer cet ADN dans du vivant, quel est le but d'accomplir cette prouesse, on va dire, si c'est une prouesse ?
Bah en fait, moi je vois ça comme une bonne nouvelle pour l'environnement. Je sais, c'est une position un peu paradoxale, mais ces bases-là, comme on l'a entendu tout à l'heure, sont totalement artificielles. Mmh. Les organismes vivants ne savent pas les faire eux-mêmes. Donc, si on a de l'information qui est écrite sous cette forme-là, il va falloir donner ces ingrédients chimiques, c'est sous forme de vitamines ou je sais pas quoi, de manière à ce que l'information se propage. Donc, ça va être une manière de tenir captif l'information génétique.
Oui, parce que spontanément, Philippe Marlière, on a envie de crier à l'apprenti sorcier. On se dit, mon Dieu, on est encore en train de bricoler le vivant, qu'est-ce qui se passe ? Non, pour vous, c'est pas un problème.
Bah, moi, j'ai tendance à penser, mais après méditation, que plus les objets créés par la technologie sont artificiels, moins ils sont dangereux. Bien sûr, on peut les rendre dangereux si on veut, mais si on ne veut pas, par défaut, je crois qu'ils sont moins dangereux.
Alors, si on en parle quand même, Philippe Marlière, aujourd'hui, c'est que les possibilités, une fois qu'on maîtrise cet objet, sont très grandes, vont de la santé jusqu'à l'ingénierie, jusqu'à l'informatique. Expliquez-nous un peu ce qu'on pourrait faire avec cet ADN.
Donc, une des premières choses, c'est que, comme on peut, c'est que c'est comme les lettres d'un texte. On peut créer énormément de phrases différentes. Et parmi les phrases de l'ADN lui-même, certaines formes, certaines successions de lettres ont, par exemple, une affinité, ça a été montré il y a longtemps déjà, pour la thrombine, pour des protéines humaines. Donc, on pourrait, comme ça, moduler, par exemple, les associations entre protéines, ou empêcher des enzymes d'agir dans le diabète, des choses comme ça. À terme, c'est ce qui va se passer. Avec un alphabet plus grand, on a beaucoup plus de possibilités d'intervention sur des molécules naturelles.
Pour soigner.
Pour soigner, comme agent thérapeutique. Par ailleurs, bien entendu, ce qui est prétendu, c'est que on a 64 triplets avec 4 bases, et on en a 512 avec 8 bases. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, un jour, on aura des centaines d'acides aminés dans les protéines, et pas 20, comme aujourd'hui, vous voyez. Donc tout ça, c'est... Bon, et moi je dirais qu'il y a aussi un truc qui vient moins à l'esprit, mais c'est l'histoire de l'authentification, la densité de l'information. On peut se servir l'ADN quand on dit, vous savez, en criminalistique, hein, on peut chercher des signatures d'ADN hein, dans des délits passés, etc. Là, on va pouvoir laisser de l'ADN avec du texte un peu partout. Hein. Ça se fait déjà derrière des tableaux. Il y a des gens qui veulent en mettre dans les pétroliers pour qu'on sache si on trouve une nappe de mazout en pleine mer, d'où vient le pétrolier. Vous voyez, on peut avoir une signature ADN là-dedans. Et il est clair que plus on a de lettres, si on a deux fois plus de lettres, les messages sont deux fois plus courts. On a une beaucoup plus grande diversité pour faire ça.
Allez, une dernière question.
Oui, mais pour vous, le premier organisme vivant qui sera capable de fonctionner avec cet ADN, c'est pour quand ?
Je dirais, dans les 5 ans, on aura cette base-là complètement piégée et très à l'aise dans les organismes vivants, bactéries.
Hein. Oui, c'est ça, on commencera par des micro-organismes, ouais. A priori. Hein. Steven Benner, donc, est à l'origine de cette première, avec donc cet ADN à 8 lettres. Et on aura l'occasion, évidemment, d'en reparler. Ça pose plein de questions, hein, évidemment, pour nos auditeurs, donc on pourra largement y consacrer une émission. Merci, Philippe Marlière, à très bientôt. Axel, à demain.
À demain.
Allez, dans le reste de l'actualité scientifique, Vénus n'est plus la planète la plus proche de la Terre selon la NASA. Rassurez-vous, les planètes n'ont pas bougé. C'est seulement la manière de calculer qui change. Si on aligne les planètes sur une belle ligne, comme dans les livres d'école, Vénus est bien notre plus proche voisine. Mais dès qu'on fait tourner les planètes autour du Soleil, comme elles le font d'ailleurs réellement, alors Vénus passe en moyenne plus de temps loin de nous que Mercure. Mercure est donc en moyenne et dans le temps la planète la plus proche de la Terre. Fait intriguant avec cette manière de calculer, Mercure est aussi la planète la plus proche de toutes les autres planètes du système solaire. Faire de l'hydrogène avec de l'eau de mer, l'idée est séduisante tant le besoin actuel en combustible propre est urgent. Jusqu'à aujourd'hui, on savait extraire l'hydrogène seulement à partir d'eau purifiée et très chère à produire, ce qui rendait le procédé peu utile à grande échelle. Une équipe de Stanford rapporte cette semaine dans la revue PNAS qu'il est désormais possible de casser les molécules d'eau pour extraire l'hydrogène directement à partir d'eau de mer grâce à des électrodes adaptées. Reste à voir si le procédé est soutenable à grande échelle. Et puis la semence de bélier résiste à l'épreuve du temps. Le sperme de 4 béliers entreposés depuis 1968 dans un laboratoire australien a été décongelé et utilisé avec succès pour inséminer 34 brebis avec des résultats et des taux de grossesse comparables aux semences récemment congelées. Les chercheurs de l'université de Sydney affirment qu'il s'agit du plus ancien sperme inséminé à ce jour à produire une descendance viable. Les scientifiques pensent que leurs travaux vont permettre d'analyser les progrès génétiques réalisés par l'industrie de la laine au cours des 50 dernières années d'élevage sélectif.